Les matins du génie. Troisième et dernière partie.
Une version avec Relema, Manu Dibango, une version qu'apprécie Martial Zebilinga. Alors mes invités sont donc Martial Zebilinga, Kifley Selassie et Mohamed Yahya Ould Sirer. Je ne sais pas si je prononcerai avec l'accent. Bon, alors nous parlons de l'esclavage ce matin. On va aborder la question des réparations. On parlera de l'esclavage en Mauritanie, mais on n'a pas répondu à ma question. Je pense que beaucoup de personnes se la posent. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Est-ce que nous n'avions pas les moyens de justement chasser l'envahisseur, j'ai envie de dire? Et pourquoi l'esclavage a duré autant de siècles, 4 siècles carrément? Et la traite négrière?
Disons qu'il y a plusieurs, je pense qu'on va tous donner un petit peu des éclairages. D'autant plus que c'est une question extrêmement importante dans l'histoire d'Afrique et même dans la période contemporaine, puisque aujourd'hui on a des Africains qui savent envoyer des objets interplanétaires, on a des Africains qui sont des précurseurs d'Internet, avec des gens comme Philippe Emeagwali, qui est le premier à avoir mis en réseau 65 000 ordinateurs. On a des tradithérapeutes qui soignent quasiment toutes les maladies du monde, pourtant on continue d'être dans la situation actuelle. Et donc la question se pose, c'est de savoir comment est-ce que dans le rapport avec l'autre, avec les autres civilisations, on en est arrivé là. Je propose comme explication le fait que d'une part, quand on arrive dans la période du 15e siècle, même si on a des États qui existent et qui sont constitués, qui sont puissants et qui sont d'ailleurs relatés par beaucoup de premiers explorateurs européens, les Hollandais, il faut voir comment ils en parlent. Ils disent à quel point on a des rues qui sont aussi grandes qu'Amsterdam, comment l'urbanisation est florissante. Ça, c'est clairement dit dans tous les livres d'histoire, même d'Européens. Je pense que, premièrement, on est déjà dans une phase de régression depuis la défaite, notamment, d'Égypte face aux Assyriens, et peut-être déjà par rapport aux Grecs. Mmh. C'est-à-dire que, après, tout ce qui va se passer, ça va être des espèces de renaissances, des résurgences. Quand vous allez en Nubie, vous retrouvez aussi beaucoup de pyramides. Il y a plus de pyramides en Nubie qu'en Égypte, mais celles qui sont postérieures à l'Égypte, elles sont moins importantes, il y a moins de travail, il y a moins de qualité. Mmh. Donc, je pense que, d'une part, on est déjà dans une phase de régression.
Donc, notre civilisation est déjà en régression.
régression. Et déjà en régression, parce que n'oubliez pas que...
Comme en fait, toutes les civilisations, finalement.
Tout à fait, tout à fait. C'est que la civilisation égyptienne, si vous voulez, on est déjà... atteint son apogée bien, beaucoup plus avant. Mm. Première explication. Mais on doit aussi comprendre pourquoi, à ce moment, on est en régression. Et je pense qu'il y a premièrement une explication philosophique, à mon avis. Mm. Il faut quand même observer que les Africains connaissent la poudre avant beaucoup d'autres civilisations. Avec cette poudre-là, ils gardent des usages qui sont des usages sociaux, alors que quand
et non pas des usages stratégiques.
Oui, quand les Européens découvrent la poudre, ils vont fabriquer des armes. La Chine avait déjà la poudre aussi, mais elle n'a pas fabriqué des armes à feu. Mm. Vous voyez ? Et cette orientation philosophique différente, rien que celle-là, qui est peut-être un aspect purement culturel, va faire que dans la rencontre avec des peuples qui ont une autre vision du monde, qui provient aussi de leur histoire, nous n'allons pas développer des moyens de lutte et des moyens nous permettront de défendre et d'assurer notre intégrité. Premier phénomène, moi je pense que c'est très important. Mmh. Et ça va se reproduire toujours dans nos rapports
avec... ça se reproduit jusqu'à aujourd'hui.
Vous avez, si on avait des exemples à donner sur des captures, par exemple, d'esclaves, mais il y a des choses totalement délirantes où on vous explique comment des peuples sur la côte de la Sénégambie accueillent les négriers... organisent des banquets, etc. Oui. Et puis, à la fin, les négriers, ils ont d'autres idées derrière la tête, et bien ils prennent tout le monde, ils s'en vont. Oui. Et pas qu'une fois. Donc, il y a aussi une... C'est-à-dire que notre philosophie, à un moment donné, ne va plus être adaptée à des gens qui ont développé une vision du monde.
Oui, alors,
vision...
ce qu'on peut prendre pour de la naïveté, c'est également, quelque part aussi, de la complicité, non ? Parce que je me trompe en disant ça, monsieur Selassie. Oui, parce qu'il faut également assumer
dans
ça.
Dans le temps, si vous voulez, les appareils de direction africains ont été transformés, ont été subvertis, de telle sorte que non plus gérer et diriger l'Afrique, que globalement des classes qui étaient sélectionnées dûment par les occupants. Prenez l'exemple typique de Congo. Angola-Congo, 15e siècle, il y a des attentats à l'arme à feu dans la cour du Congo. Tout simplement parce qu'il faudrait prendre le pouvoir de cet énorme État. Et c'est un des premiers États qui va donner, entre guillemets, à l'Afrique, le premier évêque catholique, le premier monarque qui sera converti au christianisme, alors qu'il avait tout dans son État, quasiment. Mm. Et que, justement, Kimpa Vita va s'opposer à cette christianisation. La christianisation aussi va être un facteur qui va renforcer ces éléments-là avec le facteur islam, à mon avis. Mais je dirais qu'il y a d'un point de vue philosophique, on ne pense pas le monde de la même façon. On n'a pas la même lecture de l'exploitation du monde, même des ressources matérielles. C'est pour ça que les Africains ne vont pas développer de technologies agressives vis-à-vis de la nature. Donc on va rester à un artisanat florissant, à des pyramides, à des choses qui restent assez naturelles. Mm. Alors que là, en face de nous, une société qui vit son être au monde comme ce qu'ils appellent eux-mêmes une volonté de puissance, une volonté de dominer.
Domination.
Et je crois que philosophiquement, on a perdu le combat à ce niveau-là.
Monsieur Elima au téléphone, allô ? Monsieur Elima ?
Bonjour.
Bonjour.
Oui, je vous appelle pour réagir sur l'histoire de l'Éthiopie.
Oui.
Oui, parce que j'ai un petit problème, parce que je connais très bien, j'ai un peu étudié l'histoire éthiopienne, et quand on me dit que l'Éthiopie, avant, faut savoir que l'Éthiopie avant était, s'appelait l'Abyssinie d'abord, que l'Éthiopie n'est pas le mot exact du royaume, que l'Éthiopie est un mot grec, qui veut tout simplement dire la peau noire ou l'homme la peau brûlée. Et que l'Éthiopie avant le 15e siècle allait jusqu'à la Mecque, jusqu'à le Yémen, tout ça était l'Éthiopie. Donc les habitants de la Mecque à cette époque-là étaient des Sabéens, c'est-à-dire des peuples noirs, des noirs. Donc quand on me dit l'esclavage des noirs a été fait du 6e siècle, ça reste à réfléchir parce que les habitants même étaient des noirs. Les habitants de l'Éthiopie, de la Mecque, de toute cette région-là étaient des noirs. Alors comment expliquer que ces gens-là aient pu faire l'esclavagisme des noirs entre eux-mêmes ? Donc c'est pas possible.
Alors ça, c'est des débats d'école, j'ai envie de dire. On ne va pas s'apesantir sur cela, sinon on va éluder le pourquoi du comment nous sommes ici. Je vais prendre Monsieur Fana. Monsieur Fana, vous êtes là ?
Bonjour, c'est Madame Fana.
C'est Madame Fana, bonjour.
Oui. Bonjour, Jenny, et bonjour à tous vos invités.
Oui.
Moi, je voudrais, comment on appelle ça ? Ça fait plaisir de vous entendre, de débattre l'histoire de l'esclavage. Et ça fait aussi mal parce que souvent quand je regarde la télé, que je vois ce qui s'est passé dans l'histoire et puis après tout ce qu'on a appris, mais c'est mieux d'en parler que de se taire là-dessus, mais que on demande qu'il y ait réparation morale, je pense que les gens ne le feront jamais, parce qu'ils savent comment ils ont fait du mal au peuple noir, parce que moi je parle de noir, parce que c'est le noir qui en souffre beaucoup. Mmh. C'est-à-dire, on prend toute origine confondue de peau blanche. Le blanc se prend toujours supérieur par rapport au noir, c'est-à-dire quand on parle de la Mauritanie. Quand on regarde l'esclavage en Mauritanie, c'est les noirs qui sont inférieurs par rapport aux blancs, c'est-à-dire à ceux qui ont la peau blanche. Donc je pense que l'esclavage même, c'est-à-dire c'est l'infériorité, quoi, c'est-à-dire la supériorité des blancs, de toute personne qui se croit supérieure à celui qui est inférieur par rapport à lui.
Mmh. Et je suis d'accord avec vous, Madame Fana, sauf sur un point, c'est que si vous dites que la question des réparations ne va pas être abordée, que dirait-on ?
Non, je ne vous dis pas de ne pas aborder, je dis qu'ils ne vont jamais vouloir le reconnaître.
Mais ils ont quand même reconnu, on va dire, ils ont quand même reconnu que l'esclavage est un crime contre l'humanité.
Oui.
Donc un grand pas a été franchi, la loi Taubira, n'oubliez pas.
Bien sûr, c'est vrai que ils le reconnaissent, mais ils ne réagissent pas. C'est-à-dire, c'est comme si, bon, vous voulez qu'on reconnaisse, on reconnaît. Mais dans le comportement de tous les jours, dans la frustration de tous les jours, on est tout le temps inférieur. On se sent inférieur dans les propos, dans tout ce qu'ils font. On a toujours mal parce que on se dit, ils l'ont fait puisque nous, on en parle tout le temps pour qu'il y ait réparation. On en parle qu'ils reconnaissent. C'est-à-dire, on est tous des êtres humains. C'est, la différence, c'est la peau. Sinon, on est tous des êtres humains.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Fana. Merci beaucoup. Monsieur Selassie, vous voulez peut-être répondre à Madame Fana alors à Monsieur Elima. On ne va pas s'attarder là-dessus.
Je ne vais pas me mettre dans les réponses. Mais Madame Fana pose un vrai problème. N'ayons pas peur de le dire que la peau noire, l'homme noir, la femme noire, a été et encore considéré par beaucoup comme étant inférieur à la peau un peu plus claire, un peu plus blanche, etc. Ça monte comme ça. Bon. Mais ça, c'est notre manière de le vivre. Moi, je suis noir, je suis fier d'être noir, je ne me considère pas comme supérieur à qui que ce soit, qu'il soit blanc, jaune ou vert, mais je ne me considère nullement comme inférieur. Donc, la première chose qu'il faut que nous développons au-delà des émissions historiques, c'est notre capacité à nous assumer dans ce que nous sommes. Et l'une des manières la plus sûre qui existe, et là j'en reviens à la question que vous avez posée vous-même, la manière de comprendre ce qui s'est passé dans le processus de notre affaiblissement nous amène à considérer d'abord, il faut que de tout temps nous apprenions à être ce que nous sommes. Et ce que nous sommes, quand on parle des Africains, l'Afrique de l'Est a des caractéristiques qui lui sont propres, l'Afrique de l'Ouest. Une autre, bon, c'est-à-dire qu'il faut que nous reconnaissions aussi la diversité africaine.
Alors moi j'aimerais que... Oui, monsieur Selassie.
Il me tient à cœur de dire, quand même par rapport à des questions de fond qui ont été posées par mon frère ici, mon frère Martial, je pense que le fait que la civilisation africaine soit une civilisation de l'accueil, une civilisation pacifique, ne procède pas d'une simple philosophie. C'est aussi celle de la philosophie, mais d'abord c'est de la politique. Et cette politique passe par le fait que nous devons assumer ce que nous sommes au moment où nous parlons, c'est-à-dire quelle est notre identité politique. Nous avons été toujours dans l'accueil. Quand un étranger vient, nous l'avons accueilli et il nous a asservi, quel qu'il soit. Ça m'est absolument égal qu'il soit noir lui-même, arabe, blanc, jaune, qu'importe. Il faut que nous comprenions que notre destin, on ne peut l'apprendre que dans la mesure où nous nous disons « je ne suis pas plus fier qu'un autre, mais en Afrique, c'est moi qui, chez moi, je dois mettre de l'or ».
Bien sûr.
Alors, dans cette affaire-là, ce n'est pas une question d'être à tel ou à tel moment plus avancé ou non. Toute la question, c'est entre notre degré d'ouverture par rapport aux autres civilisations et notre degré de fermeture. Nous avons tendance à trop ouvrir notre porte, notre cœur, nos sentiments. Et le résultat, c'est qu'on nous la retourne contre nous-mêmes.
Contre nous-mêmes.
Alors, comment arrêter cette violence si ce n'est pas une perception du politique qui consiste à dire « suffit, ça va, jusqu'ici, mais pas plus loin ».
Je vais passer la parole à M. Mohamed Yahya Oulsiré. Pardonnez-moi d'écorcher votre nom. Alors, j'aimerais qu'on parle de l'esclavage en Mauritanie. On parle de cette peau noire. C'est vrai que quand on est noir en Mauritanie, on est un esclave. Enfin, c'est vraiment ça la réalité. Et comment, justement, peut-il exister aujourd'hui encore des esclaves dans le monde, et particulièrement en Mauritanie ? les esclaves noirs.
Alors, l'esclavage en Mauritanie provient de la traite saharienne. Ce sont des Arabes, des Berbères, qui asservissaient, dans le cadre de la traite saharienne, prenaient des Noirs, les utilisaient en Afrique du Nord, en Mauritanie, au Mali, au Niger, etc., là où il y a les Berbères et les Arabes, et les exportaient aussi vers le reste du monde musulman, et particulièrement au Moyen-Orient. C'est donc la traite saharienne qui a produit cet esclavage en Mauritanie. Ça, c'est un aspect très important. Mmh. Et comme on le disait tout à l'heure, lorsque l'esclavage, l'islam est venu et que la progression de l'islam est partie de la péninsule arabique, elle est partie dans toutes les directions. En Asie, d'abord où il est né, mais aussi en Europe. Lorsque les musulmans ont été défaits en Europe, arrêtés en Inde, ils se sont dirigés essentiellement vers l'Afrique. L'Afrique est devenue le foyer de l'esclavage. Et donc la Mauritanie, les Maures, ce qu'on appelle les Maures, les Arabes et les Berbères, ont joué un rôle excessivement important de pourvoyeurs d'esclaves pour eux-mêmes, pour le Moyen-Orient, pour l'Afrique du Nord, l'Algérie, la Tunisie, etc., et l'Égypte, mais aussi pour le reste du monde musulman. Et donc, c'est là où donc cette spécialisation sur les Noirs comme esclaves qui a fait qu'aujourd'hui, en Mauritanie, les Moors ont des esclaves noirs et non arabes et non berbères. C'est pourquoi j'ai dit que l'esclavage en Mauritanie a un caractère racial. Parce que les Moors n'esclavagisent pas d'autres Moors. Tout esclavage a un caractère social parce qu'il s'agit de l'être humain.
Pourquoi les Noirs, justement ? Ça procède de quoi? Tout à l'heure, Martial Zebilinga a évoqué la bulle papale. Hein. C'est un pape qui a décrété que le noir, il fallait le réduire en esclavage. Mais est-ce que cette façon de voir le monde, cette vision catholique chrétienne de l'homme noir, était également c'est ça qui a provoqué cet état de fait en Mauritanie?
C'est-à-dire que oui, tout à fait. Il y a quelque chose qui est à peu près similaire. Il n'y a pas eu un grand musulman qui ait décrété finalement que l'esclavage a justifié l'esclavage des Noirs, mais par exemple au Maroc.
C'était cela. Maroc. On va y revenir dans quelques instants.
Pour réagir en direct, appelez Eugénie au 01 55 07 58 00.
Nous parlons de l'esclavage ce matin, historique et actuel. Peut-on pardonner, peut-on réparer ce racisme d'un autre âge? Tidiane Diakité était avec nous au téléphone, malheureusement il est parti. Et je voulais justement parler de son livre, « L'Afrique expliquée, réponse aux questions des jeunes » aux éditions Culture Croisée, où justement il aborde la question de pourquoi ça s'est passé. Et voici ce qu'il écrit. Alors, c'est un jeune garçon qui lui demande en fait... ce qui s'est passé, à vrai dire, la capture d'esclaves noirs en Afrique pour les envoyer en Amérique ne fut pas la première préoccupation des Européens lorsqu'ils abordèrent les côtes africaines. Alors pourquoi y allait-il ? Les motifs de cet élan des Européens vers les mondes lointains étaient divers. Pour les résumer, cette citation d'un des découvreurs de la route des Indes par l'Afrique, le portugais Vasco de Gama, dit l'essentiel des chrétiens et des épices. Il s'agissait donc, selon lui, de convertir des peuples non européens au christianisme et de se procurer les épices, denrées rares et précieuses dans l'Europe de cette époque. Monsieur Sélassier, non, vous n'êtes pas d'accord avec ça.
Je pense qu'aucun de nous trois ne sera d'accord avec ça, oui. Parce que c'est pas... pour les beaux yeux de telle ou telle conversion que l'on entreprend des expéditions. Quand on parle par contre des épices, les épices parce que ça permet de produire des médicaments aussi. Fait, quand on parle de la route de la soie, parce que la soie était un matériel qui était important. Quant à la traite transatlantique, comme à travers l'océan Indien, sa raison d'être principale, c'est de répondre à un besoin que l'économie de l'époque commandait. C'était l'économie du café, l'économie de la canne à sucre, avait besoin de main-d'œuvre. Comme ils ne trouvaient pas la main-d'œuvre sur place et qu'il n'y avait pas de mécanisation, C'est pour cela, et pour cela essentiellement, qu'ils ont été envoyés. Pour le reste, qu'il y ait eu une bénédiction papale à cette entreprise, l'habillage idéologique, on peut l'appeler civilisation, on peut l'appeler christianisme, on peut l'appeler islamisation, c'est secondaire. Ça, c'est pour la galerie, en quelque sorte. Bon. Mais l'effet brut, c'est cela. C'est-à-dire la soumission pour les besoins matériels de certains hommes, d'autres hommes. L'abêtissement d'un homme, l'inhumanisation d'un homme par un autre homme. Et c'est ça qui est scandaleux dans l'esclavage. Et finalement, dans tout phénomène de servitude.
Omar Dieng au téléphone, il est écrivain. Omar Dieng.
Allô.
Oui, bonjour, vous m'entendez?
Je voulais juste apporter un certain nombre de précisions.
Oui.
Je pense qu'il y a deux questions qui sont essentielles, en tout cas une qui concerne la Mauritanie, mais l'autre qui est plus générale. Je pense pourquoi nous les Africains, nous subissons tout cela. Je pense que le problème, il vient essentiellement à partir du moment où l'Afrique est aliénée. Sur le plan idéologique, donc d'où, je pense que c'est pas la religion en tant que telle qu'il faut condamner, mais c'est l'utilisation des religions, que ce soit l'islam ou le christianisme ou autre, pour aliéner les Africains. À partir du moment où tu as pris un sens de ta propre personne, de toi-même, par d'autres mots, on arrive à te faire croire étant inférieur, tu es déjà affaibli, parce qu'on voit des Noirs qui se donnent des ancêtres de prophète Mohamed, des Noirs qui se blanchissent de la peau, etc., parce qu'il y a une aliénation. La première faiblesse de l'Afrique, et Mohamed Yahya Boussiré, ce qu'il disait, tout à fait vrai, et que l'Afrique commence à basculer à partir du moment où les Africains se battent entre eux-mêmes au nom de la religion. Et on sait que l'Empire du Ghana, qui était le dernier bastion de la civilisation africaine, chute par une alliance entre Noirs et Berbères. Donc à partir de ce moment, il y a une pénétration et l'esclavage se multiplie. Et les mouvements religieux, que ce soit celui de l'âge noir ou d'autres, participent à l'esclavage en Afrique. Donc ça c'est le premier point, c'est l'aliénation des Africains mentales qui fait leur faiblesse et qui sont soumis et continuent à être soumis. Deuxièmement, et l'un des intervenants a dit quelque chose de très important, c'est l'hospitalité. Quand les Portugais arrivent au Congo, les Congolais pensent que c'est leurs ancêtres qui viennent, qui sont revenus. En Afrique de l'Ouest, on ne s'est jamais méfié de la présence arabe ou berbère, mais ce sont les mêmes qu'on va utiliser pour nous dominer après. Voilà, donc, ce point. Je passe à la Mauritanie. Pourquoi l'esclavage continue aujourd'hui en Mauritanie? Parce que, premièrement, l'esclavage en Mauritanie n'a été combattu que timidement par les colons. Ils ont composé avec les Maures, parce que les Maures tenaient à leur esclavage. Donc, les colons ont composé avec les autorités coloniales, ont composé avec les classes dominantes mauritaniennes pour le maintien de l'esclavage. Le deuxième problème, c'est que depuis l'indépendance, tous ceux qui ont dirigé ce pays sont issus de la féodalité. Troisième point qui me paraît très important, c'est que toute la société mauritanienne est traversée par le phénomène de l'esclavage et que l'élite même, elle-même, est esclavagiste. Donc comment voulez-vous que dans ces conditions, l'esclavage disparaisse en Mauritanie? Je voulais simplement préciser deux points et puis je laisserai la parole à d'autres personnes.
Je vous remercie, Omar Dieng, pour votre contribution. Alors justement, M. Mohamed Yahya Oul-Désiré, vous avez décidé de vous battre pour l'abolition de l'esclavage en Mauritanie. De quelle façon, si on écoute Omar Dieng, c'est assez difficile, c'est très compliqué.
Oui, l'esclavage est très ancré dans la société mauritanienne, dans les esprits de la société des Mauritaniens. Les féodaux, d'abord, l'appliquent, ils y croient. Les victimes y croient, c'est-à-dire les haratines dont je fais partie. La société dans son ensemble croit à l'esclavage parce que l'islam a justifié l'esclavage. Et donc, il est très difficile de lutter contre. Mais aussi, en même temps, si on voit, on ne peut pas rester sans rien faire. C'est pourquoi mon association AHME, l'association des Haratines de Mauritanie, s'est fixée pour objectif l'abolition de l'esclavage.
De quelle façon?
Alors, nous luttons de plusieurs manières. Nous avons un journal qui s'appelle Les Cris du Haratani. Nous avons notre site www.haratine.com qui est aussi sur lequel nous travaillons. Nous conscientisons même en Mauritanie, nous faisons un travail de conscientisation en Mauritanie. Nous essayons de tisser un réseau de jeunes qui conscientisent, qui vont eux-mêmes aller voir les populations et leur parler. Effectivement, en Mauritanie, j'estime que la façon avec laquelle nous abordons le problème ne peut pas être accepté en Mauritanie par le pouvoir actuel. Donc c'est pourquoi nous estimons que ce que nous faisons, la manière avec laquelle nous la menons, ne peut se faire qu'à l'extérieur, dans un lieu où on peut s'épanouir et dire ce que nous pensons. Par exemple, ce débat ne peut pas avoir lieu en Mauritanie. Impossible. Impossible qu'il y ait lieu en Mauritanie. Donc c'est pourquoi nous menons ces actions. Elles sont pour le moment pacifiques, parce que nous estimons que nous pouvons, par la voie pacifique, aboutir à changer les mentalités, notamment par la conscientisation des victimes elles-mêmes, mais aussi l'autre facteur, c'est sensibiliser l'opinion publique internationale sur la question. C'est très important, parce que je pense que si l'opinion publique internationale, les Africains particulièrement, ne prennent pas ce problème au sérieux, ne le comprennent pas, ne viennent pas à notre aide, comme ils l'ont fait pour l'Afrique du Sud, je pense que les Mauritaniens, les Haratines, mais aussi les Noirs victimes du racisme, parce que le racisme, comme je le disais tantôt, a un caractère racial. Vous avez des Noirs esclaves, qui sont les Haratines, mais vous avez des Noirs qui ne sont pas esclaves, qui sont, eux, victimes du racisme. Autrement dit, on est réduit à l'esclavage qu'à des Noirs, mais en même temps, les Noirs qui ne sont pas esclaves ne constituent pas un recours et sont donc des gens dévalorisés. Ce qui fait que l'esclave lui-même, rien ne le pousse
à sortir
dans
de sa
l'idéologie
condition.
Dominante, ni même dans le regard d'à côté, de celui qui peut le ressembler, c'est-à-dire le Noir, à sortir de son milieu, de cette situation. Donc le caractère racial, on n'insiste jamais assez sur le caractère racial en Mauritanie, de l'esclavage. Et donc, la communauté noire dans le monde doit venir en aide pour que nous puissions sortir de cette situation. Je pense qu'on est en train de parler en Europe, mais s'il n'y a pas un soulèvement en Afrique, une prise de conscience africaine, de l'élite africaine, de la jeunesse africaine, comme il y a eu vis-à-vis de l'Afrique australe et surtout l'Afrique du Sud, pour venir à bout de l'apartheid. Nous ne pouvons pas vaincre l'esclavage en Mauritanie. Vous savez,
ça,
ils sont très forts.
C'est un des défis, majeurs contemporains pour les Africains. Je voudrais qu'on aborde la question des réparations. Il est 11h39. Ce serait bien qu'on aborde cette question des réparations. Alors, une auditrice ou un auditeur a dit « Non, moi, je ne veux pas qu'on parle de réparations. » Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Martial, Zebeniga?
Ben, disons que la question des réparations, c'est une question un peu phobique, hein, c'est-à-dire qu'elle crée des phobies, des fantasmes, et elle déchaîne beaucoup de passions, dans un sens comme dans l'autre. Et je suis très surpris quand j'entends, en particulier, les antiracistes officiels, et notamment l'antiracisme français, qui, dès qu'on parle des réparations, tout ce qui est SOS, etc., Ligue, ceci et cela, ils rentrent dans une espèce d'irrationalité, ils sont pris de démangeaisons de toutes parts. Et ce monde-là, exècre, déteste, comme vous n'imaginez pas, la conférence d'Urban, qui a été une des premières conférences sur la question du racisme, qui a mis en avant, en tout cas à l'époque contemporaine, qui a mis en avant la question racisme anti-noir et la question des réparations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une question qui est interdite. Alors, on nous dit d'abord que cette question est interdite, si je prends le cas français, parce que c'est trop complexe et parce qu'on ne pourrait pas le faire. Ça, c'est des réponses qui ont été données, puisque vous savez que l'article 5 de la loi Taubira, à la base, c'était un article qui disait qu'un comité d'experts devait réfléchir sur la question des réparations. Bon, d'un mot, la question de la réparation n'est pas une demande, c'est pas une supplique, c'est pas
Bien
une...
sûr.
Non, c'est un droit. À partir du moment où il y a un crime qui est établi, il y a une réparation.
Et quand il y a une réparation, elle vient après la réparation morale.
Voilà, aussi. Et puis après la nature de la réparation est à apprécier. Elle peut être morale, elle peut être matérielle, elle peut être même financière. Il ne faut pas rentrer avec des brides sur la question. Le principe, c'est d'abord, crime entraîne réparation. Ensuite, quelle réparation? On en discute et on apprécie la situation. Je pense qu'il y a une mauvaise interprétation, et je regrette beaucoup, qui est une instrumentalisation des propos, notamment d'Aimé Césaire, sur la question de la réparation. Parce que quand vous écoutez Césaire, Césaire n'est pas contre l'indemnisation en tant que telle. Il est contre l'idée qu'on puisse dire un jour on vous donne de l'argent et on est quitte. Et après, vous ne nous embêtez plus avec cette histoire d'esclavage. Ça, c'est le fond de la pensée de Césaire. Et donc, il prend la notion de réparation comme un littéraire qu'il est, mais pas au sens juridique.
Et c'est pour ça qu'il faut faire attention, justement, parce que la question de la réparation, même si elle était financière, va bien au-delà de l'aspect financier.
Concrètement, ce que je veux dire quand même, c'est que concrètement, je laisse le tour de table, concrètement, il existe déjà des schémas de réparation, qu'on ne nous dise pas que c'est trop complexe. Premièrement, si on prend Salah Moulin, ça a donné des propositions. Il a dit, il y a des choses qu'on peut quantifier. On ne peut pas compter la douleur, etc. On peut compter le nombre d'heures de travail, on peut compter l'espérance de vie en moins des gens qui ont travaillé. On peut estimer, se mettre d'accord sur une estimation du nombre de déportés et sur le préjudice. On peut intellectuellement se mettre d'accord. Et la question des réparations n'est pas une question simplement de nègre ou de noir. Il y a eu des réparations par rapport à la déportation des Juifs. Il y a eu des réparations par rapport aux Maoris. Il y a eu des réparations. Enfin, le monde entier fonctionne selon un schéma des réparations parce que c'est un schéma juste. On ne peut donc pas nous le reprocher, soit ou ne le refuser, soit parce que c'est trop complexe, soit parce que c'est pas plus complexe qu'autre chose.
Une autre question, est-ce que c'est pas trop tôt ce que cette réparation?
Par contre, il y a une pédagogie qu'il faudrait
faire. Cette question des réparations. Financière ou économique, Monsieur Sélassié.
D'abord, le principe même de la réparation, on est ouvert, qu'il s'agisse de la réparation morale ou la réparation matérielle. Mais le primat, c'est d'abord reconnaître, c'est la réparation morale. Mm. Pourquoi les Occidentaux, c'est pas les Français seulement, les Occidentaux sont très gênés par cette question-là. Pourquoi? Parce que vous avez vu qu'il y a 5 ou 6 années, la communauté juive est arrivé à obtenir la réparation de l'Allemagne pour les crimes qui ont été commis. La réparation matérielle, je dis bien, et notamment à partir de l'argent qui a été saisi en Suisse.
Alors, tout à fait.
Le cas le plus récent que nous devons citer, c'est pour cela qu'il ne faut pas limiter la question au débat franco-français ou pourquoi la France, etc. Bon, au moins le Parlement français, grâce à Taubira, mais des forces qui sont derrière, puisque de toute façon, ça a été adopté à l'unanimité, il faut le reconnaître, a eu le mérite de reconnaître l'esclavage comme crime de l'humanité. Or, si l'abolition en France est de Schœlcher 1848, l'abolition en Angleterre est de 1807. C'était absolument intéressé, c'est-à-dire c'est pour mobiliser contre Napoléon les forces supposées que cette libération des esclaves allait provoquer contre Napoléon et notamment dans ses colonies aux Amériques. Donc c'est pour ouvrir, pour avoir une force supplémentaire. Or, dans le cadre de la célébration, ou la commémoration plus précisément, pour nous en tout cas, du 200e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, il y a, c'est le 19 novembre dernier, Blair a dit que l'Angleterre aussi envisage et doit reconnaître que l'esclavage est un crime contre l'humanité. Regardez à quel point l'hypocrisie. C'est-à-dire, lui, le Premier ministre, il le reconnaît, mais le Parlement ne s'est pas prononcé. Et il ajoute, et là, on en arrive à ce que Césaire a compris, et je suis tout à fait d'accord que c'est dans le sens que tu as dit que Césaire le comprend, sauf que ce n'est pas l'écrivain. Quand on pense à Césaire, il faut penser à l'homme politique. C'est un homme qui a été un homme politique pendant plus de 50 ans. Il sait le poids des rapports de force. Et Blair dit, tout en reconnaissant que l'esclavage constitue un crime contre l'humanité, il ne faut pas que j'exprime, ou ni que le Parlement exprime des regrets. Mais c'est extraordinaire. D'un côté, on reconnaît peut-être la possibilité que c'est un crime contre l'humanité, sans que le Parlement ne vote là-dessus. Et d'un autre côté, même exprimer des regrets. Parce que si on exprime des regrets, la question de la réparation et de la réparation matérielle va se poser.
Tout à fait. Bon.
Alors, je pense que le mot consensus qui figure dans la couverture du livre de mon frère Zebelinga,
co-auteur,
montre que pour nous les Africains, le consensus n'est pas quelque chose qui est mou. C'est le résultat d'un débat profond qui tient compte des différents aspects de la question. N'ayons pas peur de poser les questions, mais posons-les en profondeur. C'est de cela que nous parlons. Et le consensus, là, ma sœur Eugénie, vous serez tout à fait d'accord que le jour viendra peut-être.
Bien sûr.
Dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, où la question de la réparation matérielle se posera. Mais pour l'instant, arrivons au moins à montrer que ce n'est pas pour la forme que nous luttons, ce n'est pas pour nous seulement que nous luttons. Nous luttons pour tous ceux qui, en Europe aussi, luttent pour libérer parmi les Blancs leur conscience. Il y a un auditeur qui a parlé d'aliénation. Mais de quoi avons-nous parlé tous les trois autour de cette table? De la nécessité de nous libérer. On n'a pas utilisé le terme aliénation, mais d'assumer ce que nous sommes. Et ça passe par le fait de débattre des questions comme celle-là, en ayant des différents points de vue sur les nuances, ou même parfois en profondeur.
J'ai des auditeurs. Mamadou, s'il est là, Mamadou.
Oui, allô.
Bonjour Mamadou.
Bonjour Madame Edine.
Je vous écoute.
Je vous en prie beaucoup. Madame, je suis très 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 content de votre émission.
Merci.
Je dis bonjour à vos invités.
Oui.
Je ne sais pas si j'ai bien compris un de vos invités qui dit l'islam a égalisé l'esclavage. Bon, je m'explique. Je ne suis pas tout d'accord pour ça. tu vois. Bon, l'islam est venu trouver l'esclavage. Et l'islam a libéré même certains esclaves. Je m'explique. Bilal, c'était le premier misère en islam. L'islam est venu trouver Bilal était l'esclave. L'islam a libéré Bilal Habashi. Bilal, il était l'esclave, son patron lui fatiguait. C'est Abou Bakar Siddiq qui allait libérer Bilal dans la main de son patron. Maintenant, l'islam a dit, quand tu tues quelqu'un, c'est-à-dire tu as tué quelqu'un par erreur, tu dois payer droit du sang. Droit du sang, c'est quoi? Tu dois libérer un esclave. Le jour que le prophète est né, son oncle Abilah bin, il a libéré tous ses esclaves. Et je voulais poser la question à cet monsieur, qu'il peut nous donner ses preuves que l'islam a égalisé l'esclavage. S'il peut nous donner vraiment ses preuves, parce que c'est un débat qui est là, on cherche à apprendre, parce que dans la vie on apprend toujours. Moi je voudrais qu'il nous explique vraiment comment l'islam a égalisé l'esclavage. C'était ça,
merci.
Je voulais lui poser la
merci,
question.
Mamadou. Merci Mamadou. On va passer la parole à un autre auditeur, ensuite je vous donnerai la parole. Valérie.
Bonjour Eugénie.
Bonjour Valérie.
Oui, moi je voudrais déjà revenir sur la question de la réparation et en plus je vais donner mon avis par rapport à l'outil de tout à l'heure. Déjà, vous voyez, la réparation, s'il faut parler de réparation, moi je pense que ce ne sont pas les Africains aujourd'hui qu'il faudrait réparer. Il faudrait plutôt penser à réparer les descendants des esclaves, c'est-à-dire les Afro-Américains, les Antillais, et tous les Noirs qui sont dans des îles parqués un peu partout, puisqu'on sait que ce sont eux qui ont vraiment souffert de l'esclavage. Nous, par contre, nous avons aussi participé, en tant qu'Afrique, nous avons participé à l'esclavage. Bien, ça c'était mon point de vue. Et je vais revenir un peu par rapport à ce qui se passe un peu en Afrique de l'Ouest, l'esclavage qui sévit en Afrique de l'Ouest. Vous devez comprendre qu'il faut d'abord se battre contre les idées qui circulent. J'ai été un jour en Afrique de l'Ouest, et j'ai même des amis africains d'Afrique de l'Ouest, j'ai ici. Vous savez, ils me disent, le Coran est tombé du ciel. On leur apprend dès la jeunesse que le Coran est tombé du ciel. C'est carrément effarant, cette histoire. Et même à la radio, dernièrement, à la radio africaine numéro 1, c'était l'émission qui passe après Africa Vie. Et il y a un des auditeurs qu'on invite souvent, Maître Kony, qui a affirmé cela, qui dit, vous savez que le Coran est tombé du ciel, en justifiant la question qu'un auditeur lui avait posée. Mais je me suis dit, mais comment est-ce que le présentateur de l'émission n'a pas intervenu quand il a dit une chose pareille? Comment est-ce qu'on peut faire croire à nos enfants que le Coran est tombé du ciel? C'est carrément effarant. Et cette histoire circule aussi. Et mon ami malien, précisément, qui m'a dit, dans cette partie de l'Afrique, on leur apprend que l'arabe est supérieur au noir. Et c'est bizarre parce que les chefs d'État d'Africains de cette partie ne luttent vraiment pas contre cela. Tant qu'ils ne vont pas mettre de l'argent pour pouvoir se battre contre ce fléau, ça va toujours avancer. Tout dernièrement qu'au Niger, ils ont condamné le fait d'avoir des esclaves. Mais vous avez quels moyens qu'ils ont mis pour pouvoir combattre cela? Presque rien du tout. Et il faut vraiment qu'on se libère de toutes ces religions qui sont venues. Prenez l'exemple de l'Égypte.
Oui, si vous permettez. On n'a plus beaucoup de temps et vous me pardonnerez de vous interrompre. Alors, qui veut répondre à la question? Mohamed Yaoul Siré.
L'islam a légalisé l'esclavage. D'abord, si votre auditeur connaît un peu l'islam, il sait que le statut de l'esclave est reconnu dans l'islam. Le statut de l'esclave est reconnu. Il peut être vendu, il peut être donné, on l'hérite, il peut être hérité. Ça, c'est très clair. Et il y a un verset de Coran qui dit, qui reconnaît l'islam, l'esclavage, et qui insiste là-dessus, et qui reconnaît aussi l'infériorité de la femme. Donc ça, je le renvoie à ma thèse, l'abolition de l'esclavage en Mauritanie et les difficultés de son application, qui a été soutenue le 25 septembre 2006 à Paris 2, à Cujas. Il peut se rendre et trouvera les sources, tous les versets de Coran relatifs à ça et toutes les sourates relatifs à ça. Donc ça, c'est une donnée. Je reviens à la réparation parce que c'est un problème tout à l'heure qu'on a abordé. Moi, je pense que la réparation se pose d'abord pour les gens qui sont déjà libres. C'est-à-dire que les Noirs, la diaspora noire, qui dans le cadre de la traite atlantique et qui est déjà libre, le problème se pose pour eux, les Antillais, les Noirs américains, etc. Mais nous qui sommes victimes de l'esclavage arabe, et quand je parle de nous, je parle des Mauritaniens, mais je parle des Soudanais, je parle des Noirs en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Arabie Saoudite, dans 22 pays que compte le monde, les 22 pays arabes, Mais ces gens-là sont encore sous l'esclavage. La réparation pour eux n'a pas de sens. Autrement dit, je reviens à mon idée tout à l'heure. Tant que les Africains, pour que les Africains soient crédibles, les Africains, je dis bien, et la diaspora et les Africains en Afrique soient crédibles dans leur demande, dans leur requête de réparation, il faut d'abord qu'ils libèrent leurs frères qui sont encore sous l'esclavage. Donc si vous, c'est-à-dire que je parle vous ici, c'est une façon de parler, la diaspora noire, victime de l'esclavage, de l'esclavage, de la traite atlantique, a déjà franchi une étape. Elle est dans cette étape et nous l'accompagnons. Mais nous sommes dans une autre phase de nous libérer. Libérez-nous d'abord, aidez-nous à nous libérer. Et en ce moment, on sera au même niveau que vous pour poser le problème. Je ne suis pas contre la réparation, mais elle ne sera pas crédible tant qu'une partie des Africains est encore dominée. Et en Afrique, malheureusement, les chefs d'État africains ne veulent pas faire face aux chefs d'État africains arabes pour leur dire leurs responsabilités. Ils refusent d'y faire face. Dans l'OIA, on n'en parle pas. Il y a 10 pays africains qui sont membres de la Ligue arabe, qui ne sont pas seulement les 7 de l'Afrique du Nord. Il y a la Somalie, il y a Djibouti, il y a les Comores, il y a le Soudan. Tous ces pays-là, sont plus les 7 qui sont du Nord, du Maroc à l'Égypte, sont membres de la Ligue arabe. On aurait pu poser le problème à l'OIA et le poser au niveau de la Ligue des États arabes pour trouver une solution. Mais non, le consensus a aidé de taire ce problème au lendemain des indépendances. Et on continue dans ce mutisme et ce camouflage-là. Moi, je pense que la crédibilité de l'Africain, des Africains en général, mais aussi de la diaspora, de l'homme noir, serait qu'on libère tous les Africains de l'esclavage, où qu'ils se trouvent. L'esclavage arabe, aujourd'hui, personne n'en parle. Les Occidentaux ne veulent pas en parler, les chefs d'État africains ne veulent pas en parler, les intellectuels africains ne veulent pas en parler. Ça, c'est ça le fond du problème. Et moi, la réparation n'a pas de sens pour moi et les masses haratines qui sont derrière. Parce qu'elles ne respirent même pas pour parler de la réparation. Donc, c'est un problème de fond que je pose.
Voilà l'esclavage moderne. Comme qui dirait. Alors moi j'aimerais qu'on termine très rapidement, parce que c'est la fin de l'émission, avec l'actualité et la relation au racisme contemporain. Une auditrice m'a interpellée ce matin au sujet de l'affaire de Pascal Sevran. Je lui ai répondu, mais tout ça a un lien quelque part, hein, beaucoup de ramifications. C'est encore une fois l'image du noir qui est écornée, beaucoup d'idées reçues sur et ça continue. Quel est votre ressenti? Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire par rapport à ça et pour conclure?
Ben, je dirais que ça va en fait, c'est une suite logique de l'ensemble de ce que nous avons dit. Préalablement. C'est-à-dire que la longue régression des sociétés africaines et notre incapacité commune à nous défendre tous ensemble et à créer une véritable civilisation émancipée fait que l'image du noir au niveau mondial, la socialisation de l'image du noir, comment le noir est perçu, reste encore aujourd'hui un être inférieur, un être dévalorisé, etc. Aussi bien sur son territoire, sur son sol, qu'à l'extérieur. Bon, c'est vrai que les processus, par contre, d'émancipation ne sont pas les mêmes. Ils ne vont pas à la même vitesse. Aujourd'hui, aux États-Unis, il existe des réparations. On demande à des banques, aujourd'hui, de montrer leur traçabilité historique par rapport à la traite négrière. Donc JP Morgan a payé des sommes importantes et un certain nombre d'entreprises dans des villes comme Chicago, l'Illinois, etc., pour travailler avec l'État, si elles ont un passé négrier, elles payent des amendes. C'est pour dire que les schémas de réparation existent déjà, même s'ils ils sont possibles, ils existent déjà, même s'ils ne sont pas suffisamment diffusés. On ne pourra malheureusement pas attendre que toute la liberté soit faite partout, parce que les choses évoluent toujours plus ou moins chacune à son rythme, mais il faudrait effectivement que...
Compter sur l'effet d'entraînement.
Oui, sur des effets d'entraînement, sur des pays leaders, sur des gens qui arrivent à montrer le chemin pour arriver à tirer toute la caravane vers un monde qui est un monde émancipé, parce que notre véritable discours, c'est un discours à la fois de paix, de réconciliation, par les réparations et par la libération de tout
c'est
le monde.
C'est un discours de dignité.
Absolument. Oui. C'est notre contribution au monde, puisque c'est toujours, même si on ne l'a pas toujours pratiqué, c'est ce que notre tradition et puis notre vision du monde nous enseigne. Mais c'est une vision pour laquelle nous devons nous battre et combattre.
Un petit mot à M. Selassie, mais avant cela, alors j'aimerais vous dire que le mot de passe pour demain, c'est festivité. Si Aïssa Thiam vous appelle et que vous dites festivité, eh bien vous aurez 225 € de carte téléphonique que vous aurez gagnée. Et puis le blog, Les Matins de Génie, eh bien, vous pouvez le consulter à partir d'aujourd'hui. C'est www.lesmatinsdegénie.com, hein, c'est en minuscule. Monsieur Sélassié, très rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, malheureusement.
Très rapidement, ce que je voudrais dire, puisque c'est l'actualité, par rapport à cet animateur de télévision que vous venez de citer, comme cet homme politique qui a parlé des Noirs dans l'équipe de football de France, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au-delà de ces personnes-là, c'est la régression de la société dans laquelle ils se trouvent. Il ne faut pas laisser ce genre de choses se perpétuer, parce que la conscience de ce que leur jeunesse réclame, quand elle voit l'équipe de France jouer, elle est fière de cette équipe de France. Par conséquent, il est très important que, au même titre que ce que notre frère nous demandait ici, que nous nous engagions dans la lutte pour la dignité.
Merci beaucoup et à bientôt.